Henri très vite, ses voyages à Paris, le général énigmatique, ce prénom des supplices et ne sait pas qu'il la hait. Les autres la courtisent par plaisir et par habitude, avec des mots d'anciens fêtards que leurs épouses à moitié délaissées tolèrent complaisamment chaque année à l'automne. Marie-Antoinette jouit de leur manière gauche, de leurs gestes interminés et de leur illusion de peupler la terre à force de cousins, depuis le commencement des siècles, les Bonabes, les Paulines et les Victor s'aimant, se trompant malades, heureux, frivoles avant de disparaître pour revenir après une génération. Très vite, elle enlève ses gants, parce qu'elle aime toutes les sensations du bout des doigts. À dîner, on parle des vieux comme s'ils étaient d'une autre espèce pendant qu'au dehors, devant le perron, les rabatteurs enlèvent le tableau en écoutant les rires et nul ne sait ce qu'ils pensent. En mariage, trompe qui peut, dit le colosse d'une voix grasse. Alors l'idée la transperce de cet homme la prenant sans égard sur la table à découper le gibier, les mains velues la contenant dans le bouillonnement de ses jupes relevées, ses jambes gainées de soie croisées sur le velours crasseux des reins épais, et les objets de bois, de cuir ou d'argent lui paraissent aussitôt menaçants, fondus par la vie des sens. Elle rit, et son voisin croyant à sa chance redouble d'efforts, mais en vain. X. Charles Pierre jouait avec l'idée de classer ses livres par ordre de danger, les inoffensifs hors d'atteinte, et tout près, à portée de la main, les liaisons dangereuses et les confessions d'un opiumane anglais. Sans doute dans ce classement, l'arbitraire aurait sa part, rassurant, les traités de botanique, inquiétant, les livres d'astronomie. Il se souvint du ciel d'Égypte et du gros consul qui vieillissait dans l'exil, et de tous ceux qui avaient voulu faire reculer la terre, Lesseps, Gordon et le malheureux Bussy. Le gaz allumé, très tôt faisait briller la porcelaine des lampes, avivant les tranches de parchemin blanc des livres les plus vieux. Une fois encore, sa pensée rejoignit Florence. Tu sais, Alcossé est devenu fou. Son fils retirait son manteau et tirait une chaise pour s'asseoir devant la longue table semée des volumes qu'il n'avait pas encore rangés. Tu as pitié de lui, tu ne l'aimais pas. Je tenais à lui, et puis c'est la pitié que je n'aime pas, l'idée d'avoir pitié de lui, il est à Sainte-Anne dans le service de Klein. Augustin regretta sa brusquerie, la magie du bel y avait cessé d'agir, c'était un soir d'octobre et son maître devait délirer encore, était-il lucide par moments, même Klein n'en saurait rien, son père ne parlait pas et c'était tant mieux. Ayant fumé sa pipe, Augustin partit pour l'opéra. Moins d'un quart d'heure après, Nacional rejoignit Charles-Pierre, Bussy avait l'air gai, Charles lui raconta la folie d'Alcossé et le rendit songeur, ils burent de la prune du Berry sans parler davantage. Enfin Nacional dit « Drôle d'homme, ton fils ». Charles ne se formalisa pas, « Pardon », dit-il, encourageant son ami du regard. Curieux je veux dire, c'est assez insaisissable, des impressions contradictoires. Je vois bien, si actif, et puis cette mélancolie d'abandonner, ne pas s'y faire, Charles pensa à Florence. Augustin, lui, aurait pensé à tout autre chose. Une rafale de pluie battit les vitres et Charles se leva pour tisonner le poêle. C'était comme s'ils avaient continué leur conversation en silence. Nacional aussi était seul. Tous abandonnés, pensa Pierre, mais je ne suis pas inquiet, il ne finira pas comme Alcossé. Ils avaient tous deux pensé à lui en même temps. Nacional le regarda plutôt gravement. « Peut-être nous étions pareils, Alcossé, Augustin, toi et moi, ton ami le consul aussi sans doute, ce qui n'oublie pas, et la vie dispose de nous différemment. » Charles-Pierre ne répondait rien. « Ce qui n'oublie pas, si nous devions fonder une secte, ce serait celle-là plutôt, ceux pour qui tout est au présent n'ont pas grand-chose de commun avec les autres, mais ils s'en arrangent différemment chacun à sa manière. » Charles éteignit doucement une lampe, puis une autre. À la fin, il n'en restait plus qu'une. Elle éclairait un mur tapissé de livres de voyage. Le reste de la bibliothèque était plongé dans l'ombre et désormais, au dehors, la pluie tombait avec régularité. Nacional rêvait. Tout ce qui change. Charles s'était rassis loin de lui, à l'autre bout de la table. Il ne pouvait se défendre d'un léger agacement. Peut-être Nacional et lui, peut-être Alcossé n'avaient pas fait ce qu'il aurait fallu. Le sort aussi s'en était mêlé, mais le ton de Nacional lui déplaisait. Charles-Pierre n'aimait pas la fatalité ni le malheur. Tu voulais un livre, National Sébrois. Ces idées-là, les siennes, il aurait mieux valu qu'il les gardât pour lui. Bien sûr, ce que tu me donneras, un roman surtout. Pas lassé du passé défini, mais non, j'ai vu les coulisses pourtant, mais j'aime toujours les décors, comme un néophyte. Les mémoires sont absurdes, les voyages m'ennuient. Un roman plein de grands événements, où le héros n'apprend rien, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentissage, dit Charles. Il lui tendit un livre, et lui serra la main avec affection, ce qui n'était pas fréquent. Augustin n'aimait pas les plastrons empesés et le pathétique des divertissements, mais il aimait Verdi. Les premières mesures de l'ouverture de la force du destin lui communiquaient toujours des impressions rapides qui se chassaient l'une l'autre, des impressions suspendues au-dessus de la vie comme des nuages se bousculant au ciel d'un champ de bataille. C'étaient ses moments de rêve. Il se voyait avec Larrey, avec Desgenettes, et puis écoutant l'opéra au San Carlo de Naples aux côtés d'un gros dragon en manteau blanc. Il se voyait dans les fourgons des armées, réparant ces petits mondes brisés par les coups de canon. Quelques barbes entrèrent dans sa loge, accompagnées d'une dame indifférente qu'il laissa s'installer au premier rang.